Et voici donc le retour de la Terre au carré. Mathieu Vidard, vous êtes bien là?
Oui, Bruno.
Alors, formule courte pour la Terre au carré pour l'instant, mais avec les sujets environnement et sciences qui reviennent en force. Et puis, il y aura toujours un peu de coronavirus hein, en fonction de l'actualité. Alors Mathieu, aujourd'hui, on s'intéresse aux villes, justement, dans le contexte de l'après-Covid.
Oui Bruno, des villes dans le monde entier qui ont subi de plein fouet le confinement avec plusieurs milliards de personnes qui sont restées bloquées chez elles pendant plusieurs semaines. Et cette expérience inédite nous a obligés à vivre autrement notre environnement immédiat et nombreux sont les urbanistes ou les géographes qui sont déjà en train d'imaginer comment repenser l'espace et la vie des habitants. Alors bien sûr tout ça ne va pas se faire du jour au lendemain mais le bouleversement lié à la crise sanitaire a provoqué une véritable opportunité pour réfléchir à des villes plus proches des humains et de la biodiversité. Un vrai déclic qui a permis dans certains cas d'accélérer des tendances déjà en route, comme par exemple la place du vélo dans la mobilité. Il faut dire que ces dernières décennies, l'urbanisation a transformé de façon spectaculaire nos sociétés et nos paysages. Une place des villes qui est aussi à l'origine de grands déséquilibres auxquels nous devons faire face. Et la pandémie de Covid-19 a justement mis en lumière les fragilités de cette mondialisation urbaine contemporaine.
De quelle façon, Mathieu ?
Eh bien, il y a plusieurs mois, lorsque s'est produit en Chine la première infection d'un nouveau coronavirus sur un humain, l'événement était en soi un fait minuscule, très localisé et à des milliers de kilomètres de nous. Mais quelques semaines plus tard, tel l'effet papillon, ce petit événement a entraîné des conséquences en cascade jusqu'à figer les métropoles dans un blocage total. Le virus a trouvé dans nos espaces urbains, dans la densité de population et dans la facilité de nos modes de transport les conditions idéales pour prospérer et se développer à la vitesse de l'éclair. Un symptôme de fragilité des villes qui semblent toutes puissantes mais qui pourtant montrent leurs failles dès lors qu'un événement inhabituel vient bousculer l'ordre des choses. Et cette vulnérabilité, Bruno, concerne les villes de toutes les tailles, car l'urbanisation s'est généralisée en installant partout de nouvelles formes de vie sociale, bien au-delà des mégapoles et des grandes agglomérations.
Et quels enseignements pourrions-nous tirer de cette crise ?
Eh bien, c'est d'abord la question du local qui est essentielle alors même que semblent dominer les phénomènes d'uniformisation et de globalisation du monde. L'une des pistes de réflexion est donc de redonner de la place à l'homme et à la nature pour articuler autrement les espaces afin de nous permettre de nous reconnecter à la biodiversité. Place publique, jardin, horticole ou agricole, piste cyclable, les idées ne manquent pas pour imaginer des villes apaisées, végétalisées, pour redonner de la force à la proximité. Et c'est l'occasion d'en discuter donc aujourd'hui avec notre invité pour parler de nos villes à réinventer après le Covid.
Bonjour Michel Lussault.
Bonjour.
Géographe, professeur d'études urbaines à l'École normale supérieure de Lyon. Vous êtes directeur de l'École urbaine de Lyon et vous proposez en ce moment des chroniques géo-virales sur la chaîne YouTube de l'École urbaine de Lyon. Vous avez également publié en 2017 Hyperlieux, les nouvelles géographies de la mondialisation. C'est aux éditions du Seuil. Michel Lussault, nous attendons les questions des auditeurs pour vous au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter, rubrique Intervenir. Mais la première question, c'est pour Mathieu Vidard.
Alors Michel Lussault, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la géographie, justement, s'est toujours intéressée aux phénomènes épidémiques et qu'est-ce que cela révèle des villes exactement ?
Eh bien, vous savez, une épidémie, c'est ce que l'on pourrait appeler un fait géographique total. Hein. C'est véritablement un phénomène qui doit tout à l'espace, puisque un virus, un pathogène, a besoin de se déplacer pour s'épanouir, et même, en ce qui concerne le virus, pour subsister et se développer. Et depuis très longtemps, les géographes ont considéré que les grandes épidémies étaient des très bonnes révélatrices des forces et des faiblesses d'une organisation spatiale d'une société donnée. C'était vrai lorsqu'on observait les épidémies anciennes, hein, comme par exemple les épidémies de peste qui ont été très observées par les géohistoriens. C'est vrai lorsqu'on a observé les épidémies de sida ou les épidémies d'Ebola. Et évidemment, pour la pandémie que nous traversons encore, c'est peut-être encore plus vrai puisqu'elle a eu ce caractère global, mondial, qu'aucune autre épidémie n'avait eu avant elle. Donc il y a véritablement dans cette pandémie une capacité à comprendre les forces et les faiblesses de notre monde urbain contemporain.
Juliette au standard de France Inter. Bonjour Juliette.
Bonjour.
Vous nous appelez de Paris.
Voilà, je suis de Paris, je réside actuellement en province sans nommer la ville.
D'accord.
Et je retourne à Paris cette semaine puisqu'on est autorisé à circuler de nouveau.
Voilà. Ouais.
Donc, je vis dans Paris intramuros, donc je connais la vie parisienne, je suis native de province et je vois aussi la vie comme elle a lieu en province. Je suis géographe de formation il y a déjà quelques années,
ouais,
à la formation universitaire, et en fait, je me posais la question suivante, y aurait-il pas une question à se poser sur l'accroissement des villes qui n'en finit plus à l'heure actuelle, que ce soit les petites, les moyennes ou les grandes, c'est-à-dire que plus en plus de population trouve leur emploi en ville, de ce fait veulent y vivre, Et malgré le fait que beaucoup de gens vivent déjà en banlieue, on le voit notamment à Paris, parfois on a l'impression que les villes que les constructions dans les villes n'arrêtent pas. Oui. Et je pose la question de la densification de la population, de la transformation de l'urbanisme, qui souvent était pavillonnaire dans les villes intramuros, et qui deviennent des rues d'immeubles. Et ça fait comme des conglomérats de construction, pas très sympathiques. Et où souvent les services de voirie, comme le tout à l'égout, la construction de stationnement pour les voitures, ne va pas de pair, si vous voulez.
Alors Michel Lussault, c'est exactement, Juliette, notre sujet du jour. Est-ce que cette épidémie peut mettre un terme ou au moins accroître la réflexion sur la densification et l'étalement des villes à la fois?
Alors vous savez, le mouvement d'urbanisation du monde est d'une puissance qu'on a parfois du mal à imaginer en quelques décennies, puisque l'enclenchement de la phase la plus forte d'urbanisation elle date de l'après-Seconde Guerre mondiale. En quelques décennies, le monde a été complètement bouleversé par cette urbanisation. Plus de la moitié de la population mondiale vit aujourd'hui dans des villes. Ça sera plus de 65% en 2050. Environ 7 milliards d'individus habiteront dans des villes. Et l'on comprend bien que ce mouvement est d'une telle puissance qu'on ne l'arrêterait pas du jour au lendemain. L'urbanisation a refabriqué le monde en quelques décennies. Il faudra bien que nous le comprenions pour pouvoir réfléchir au monde urbain d'après. Donc le monde urbain d'après, ça sera un monde toujours urbain, mais peut-être avec d'autres types de villes. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut essayer de répondre à cette question. D'autres types de villes, c'est-à-dire des villes où on commence à réfléchir différemment à la densité, à l'utilisation de l'espace par les différentes activités, à la relation entre les espaces minéralisés et les espaces verts, à la redécouverte peut-être des écosystèmes que nous avons mis à distance depuis de nombreuses décennies. Et en ce sens, cette pandémie peut être une opportunité pour essayer de réfléchir à nouveaux frais à la façon dont nous aménageons les villes. Peut-être que nous avons conçu depuis quelque temps les villes uniquement comme des machines économiques, des machines productives. Il fallait toujours tout rassembler, toujours tout développer, construire des structures de plus en plus importantes, des immeubles de plus en plus hauts. On a peut-être développé la ville au mépris de la réflexion sur la qualité de vie et peut-être aussi, et même sans doute aussi, au mépris de la réflexion sur la façon dont les villes pourraient être des environnements plus agréables et plus respectueux aussi des écosystèmes. Ben, tout ça est devant nous et je pense qu'il y a une formidable opportunité collective si nous sommes capables de réfléchir aux villes d'après.
Mathieu Vidard, question.
Oui, Michel Lussault, quelle est finalement votre analyse sur la façon dont les villes ont globalement affronté cette crise sanitaire et le confinement en particulier? Est-ce que ça a révélé de la vulnérabilité ou au contraire une formidable capacité d'adaptation?
Eh bien, comme toujours, un peu les deux. Formidable vulnérabilité, parce que qui aurait pu prédire au mois de décembre que les mégapoles les plus puissantes, ces fameuses world cities, hein, dont on nous parle depuis 20 ans, comme les endroits où le monde se montre dans toute sa force, qui aurait pu imaginer qu'en quelques semaines, elles seraient paralysées, les rues vidées, les places vidées, les activités arrêtées, les aéroports fermés, les centres commerciaux et également fermé. Donc, nous avons bien vu que ces systèmes urbains apparemment très puissants étaient en vérité très vulnérables. Pourquoi ? Parce que le virus s'est attaqué finalement là où ça fait mal, et il s'est attaqué en réalité aux mobilités. Hein, nous avons compris dans ces quelques semaines à quel point notre monde était dépendant des connexions et des mobilités. Hein, le monde est un système d'interdépendance permanente, et dès que les mobilités sont fragilisées, eh bien l'ensemble du dispositif peut se retrouver très vite paralysé. Mais d'un autre côté, et vous avez raison de le dire, on a vu aussi à quel point finalement les habitants des villes trouvaient des solutions pour traverser le confinement. Ou certaines villes moins confinées que d'autres, en particulier Séoul, hein, Hong Kong, Singapour, avaient pu trouver également des solutions pour faire en sorte que l'activité se maintienne, fût-ce en mode dégradé. Donc nous avons bien vu la capacité des habitants des villes aussi à réinventer des comportements et des pratiques. Cela étant,
qu'est-ce qu'elles avaient de plus ou de différent des autres, ces villes dont vous parlez, Hong Kong, Séoul? Pourquoi ont-elles réussi à maintenir une activité que d'autres n'ont pas réussi à maintenir?
Ben, c'est très intéressant parce que par ailleurs, ce sont des villes très denses.
Oui.
Donc ce sont des villes très denses, très importantes, où l'interaction sociale entre les individus est très forte, c'est-à-dire les deux conditions qui sont idéales pour qu'un virus prospère. Mais ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que dans ces villes, il y a une habitude de se préparer aux catastrophes. C'est-à-dire il y a une sorte d'habitude qui est liée au fait que ces villes ont déjà été confrontées à des épisodes pandémiques, notamment Hong Kong et Singapour, ou peut-être en Corée du Sud, une habitude aussi d'être exposée à la vulnérabilité, ne serait-ce que dans la proximité avec la Corée du Nord, qui a préparé depuis de longues dates les habitants des villes de Corée du Sud à être prêts en cas de désastre, en particulier de désastre géopolitique. Donc on a pu montrer que les villes qui avaient le mieux passé cette période pandémique, ce sont les villes où il y a une culture de la préparation. Et cette préparation à l'épisode catastrophique, qui peut exister aussi au Japon, par exemple, où on sait que les populations sont très préparées, par exemple, au tremblement de terre, hein, ou au tsunami, cette préparation catastrophique, ce n'est pas simplement une préparation des autorités, des gouvernements, c'est une préparation de la société civile dans son ensemble. A contrario, en Europe, qu'a-t-on découvert ? Eh bien que dans les villes, et parfois même des villes beaucoup plus petites que Séoul, Singapour, Hong Kong, ou Paris, ou Lyon, ou Milan, ou que sais-je, pensons par exemple au cas de Bergame, une petite ville qui a été très touchée par cette épidémie en Italie du Nord, eh bien on a vu en Europe que nous étions beaucoup moins préparés, que nous étions beaucoup plus fragiles face à un tel épisode, parce que nous ne savions pas trop comment faire, et nous avons donc été de tâtonnement en tâtonnement. Et le 11, c'est à la fois les gouvernements qui étaient beaucoup moins préparés, on l'a vu à l'envi en France, mais aussi les habitants qui ne savaient pas trop comment agir. Petit à petit, nous avons appris. Petit à petit, nous nous sommes aperçus qu'il y avait des manières de faire qui nous permettraient de mieux nous protéger. Donc il faut peut-être aussi que nous réfléchissions à cette pandémie comme un moment d'apprentissage collectif. Qu'avons-nous appris de ces 2 mois que nous pourrions garder en nous et dont nous pourrions faire un premier point de départ pour inventer de meilleures conditions de vie, de meilleures capacités à résister à une autre catastrophe de ce type, parce que de toute manière, un jour ou l'autre, elle arrivera.
Ouais. Michel Lusseau, pour vous, question de Marie au Standard de France Inter. Bonjour Marie.
Oui, bonjour Mathieu et bonjour Michel Lusseau, Mme Mathieu Villard. Oui, moi je voudrais savoir quelle est effectivement la place que vous faites aux piétons. Je suis ou dans l'avenir ou même dans le présent, étant moi-même piétonne, confrontée, je vais dire, soit dans les centres-villes, on va mettre des zones piétonnes, soit à l'inverse, dès qu'on sort de ces zones, on doit faire, je dirais, du slalom entre les pistes cyclables, les arbres, parce qu'on nous remet contre le mur, etc. Donc, je vous écoute. Que pouvez-vous me dire ?
Et j'ajoute la remarque de Coralie. Est-ce que le début du confinement n'a pas changé l'aspect de nos villes ? On a investi les trottoirs pour boire un verre à l'espagnol. À partir de demain, les terrasses des cafés vont empiéter sur la chaussée à Paris. Chouette, nous dit Coralie. Et on pourrait dire aussi que les piétons avaient un peu réinvesti la ville pour ceux qui étaient encore dans les grandes villes et qui sortaient au compte-gouttes, mais voilà, qui avaient retrouvé une ville plus calme et plus à leur mesure, Michel Lusseau.
Eh bien, ces 8 semaines de confinement nous ont en effet prouvé à quel point nous étions dépendants de l'automobile, jadis, à quel point l'automobile prend des espaces absolument considérables, et nous l'avons réalisé par défaut. Dès que les automobiles ont cessé de circuler, nous avons redécouvert des espaces dont nous ignorions presque l'ampleur. Nous nous sommes aperçus que dans les espaces de centraux, mais pas seulement, aussi dans les espaces périphériques, en mode normal, l'automobile occupe toute la place disponible. Et finalement, pour transporter très peu de monde et de plus en plus lentement. Nous nous sommes réappropriés l'espace urbain. D'ailleurs, beaucoup de gens me disent aujourd'hui que l'heure de sortie quotidienne autorisée a été pour eux, en France, un moyen de redécouvrir leur voisinage, de faire systématiquement une petite marche dans toutes les rues qui entourent leur domicile et de redécouvrir la capacité que nous avons à utiliser nos pieds pour finalement aller assez vite, assez loin. Idem pour le vélo. Donc, nous sommes trop dépendants de l'automobile. Je crois que ce confinement nous l'a montré. Il a montré en même temps qu'il était possible de faire autrement. Mais nous savons aussi que ça n'est pas si simple, parce que ce qui est possible dans un espace très dense, et c'est pour ça qu'il faut que les villes soient denses, parce que nous pouvons utiliser le vélo et la marche à pied de manière beaucoup plus intensive. Eh bien, c'est moins facile à réaliser dans des espaces périurbains, moins denses. Donc, nous voyons bien que nous pouvons, à partir de ce confinement, repenser complètement ce que l'on appelle dans notre jargon le système de mobilité au quotidien. Et repenser complètement le système de mobilité au quotidien, c'est indispensable parce que ça va nous permettre de réfléchir à ce que j'appelle l'allocation des espaces, c'est-à-dire sommes-nous aujourd'hui d'accord pour continuer de faire en sorte que l'automobile utilise tant de place dans les villes alors que nous avons besoin de nouveaux espaces verts, d'espaces de halte, d'espaces de repos, de trottoirs plus larges, de pistes cyclables plus importantes? Sommes-nous aujourd'hui décidés à faire en sorte que l'automobile ne prenne pas toute cette place et sommes-nous capables de mettre en face de l'automobile de nouveaux systèmes mobilitaires qui seraient efficaces et qui nous permettraient de vivre au quotidien de manière satisfaisante. C'est l'enjeu de demain. C'est un des grands enjeux de demain. Il faut que nous soyons au rendez-vous.
Merci, merci Michel Lussault d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle les références de cet ouvrage en 2017. Hyperlieu, les nouvelles géographies de la mondialisation. C'est aux éditions du Seuil. Mathieu, de quoi parle-t-on demain dans La Terre au carré?
Eh bien, sommes-nous en route vers un été de canicule, Bruno?